Olá, como está?
Digo, digo, mãe.
J'ai des amis proches ou lointains, j'ai des amis dans tous les coins.
Hello.
Bonjour.
Tant que la terre sera ronde, j'irai au
ici
tour du monde.
Là-bas,
voir d'autres êtres humains.
Ailleurs,
ni plus ni moins.
RFI.
RFI.
On en fait tout un monde.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Et oui, bonjour, bonjour mesdames, messieurs. Nous sommes aujourd'hui en plein tournage avec une maison de production provenance des États-Unis. Donc nous allons garder le sourire tout au long de ce show. Show spécial aujourd'hui. Un bonjour spécial à nos amis qui nous écoutent en Afrique, entre autres Moza Mwanza de la grande instance de Lumumbashi. Bonjour monsieur, j'espère que vous serez à l'antenne bientôt. Françoise, notre grande amie torontoise française qui est coincée, bloquée dans un hôtel à Bordeaux. Elle est en déplacement pour Royan, mais malheureusement à cause de la grève de la SNCF, ça fonctionne pas. Attention, si vous devez aller en France. Marie Mélanie Anthony, qui nous écoute régulièrement, je pense, et elle aimerait bien aller au ciné franco. Alors, qui sait, vous aurez la chance de gagner un billet pour deux à la fin de l'émission, si cela vous intéresse. Oui, beaucoup, beaucoup de parents aussi nous ont écrit, nous ont envoyé des messages. Potpourri Show, ce dimanche 8 avril 2018. Nous sommes là, en direct, www.cut.fm. Bonjour à l'ingénieur du son DJ de Vera, production et animation, Eric Kader. Et aujourd'hui, hommage à Martin Luther King, 4 avril 1968, 4 avril 2018, 50 ans après sa mort. Que reste-t-il du rêve de Martin Luther King? Archives sonores, témoignages des témoins encore vivants. Collaboration spéciale Alain Foucault, Archives d'Afrique, ce magazine que j'aime tant, à Radio France Internationale. Saviez-vous qu'il existait des écoles séparées en Ontario, madame, monsieur? Envoyez-nous un message à www.popourri@cut.fm, popourri@cut.fm. Et oui, et quel héritage pour la lutte pour les droits civiques de Martin Luther King. Notre invité, professeur Crystal Fleming. Elle est professeure de sociologie d'études africaines et d'études africaines-américaines à Stony Brook University à New York. Martin Luther King, l'homme qui assumait sa négritude, invité Jean-Baptiste Placa, animateur à Radio France Internationale. Beaucoup de nouvelles fracassantes cette semaine pour le gouvernement de l'Ontario. Nous avons reçu communiqué après communiqué, moi j'étais en voyage, démission après démission, et oui, c'est la déconfiture au Parti libéral de l'Ontario. Et beaucoup de réactions des auditeurs le legs de Martin Luther King, surtout des parents francophones de la région de Toronto, d'Ottawa, qui sont très déçus, très 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 déçus au niveau de l'emploi, de l'embauche et aussi des programmes pour les jeunes noirs. Est-ce qu'il faut avoir des écoles afrocentristes comme ça existe à Toronto? École par les noirs, pour les noirs, dirigée par les noirs, je ne sais pas. Personnellement, je ne pense pas que c'est la solution. Du 14 au 15 avril, spécial Québec au ciné. Ma Carton, en partenariat avec Québec Cinéma, Ciné Franco vous apporte le meilleur des films les plus récents sortis au Québec. Des petits bijoux, des gâteaux coco, des gâteaux chouchous. Et oui, découvrez la programmation complète sur le site de Ciné Franco, www.cinéfranco.com. Com et celle qui détient peut-être la clé du printemps, Marceline, fondatrice de Ciné Franco et collaboratrice à cette émission, sera des nôtres vers 12h30. Si cela vous intéresse, vous pouvez gagner des places en participant à notre émission d'aujourd'hui et choisir le film de votre choix. Attention, les places sont très limitées. Répondez avant le 10 avril à popori@cut.fm. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Avril 1968, 4 avril 2018, Popori Show se souvient des 50 ans de l'assassinat de Martin Luther King. Un demi-siècle s'est écoulé depuis la mort de Martin Luther King, héros de la lutte pour les droits civiques. Un peu partout aux États-Unis, des événements ont honoré sa mémoire mercredi dernier, notamment à Memphis, ville mythique où le pasteur a été assassiné le 4 avril 1968 à 18h01. Sur le balcon du motel Lorraine, motel transformé en musée des droits civiques, il avait 39 ans, sa mort avait déclenché à l'époque des émeutes dans plusieurs grandes villes des États-Unis. Et oui, mercredi, des milliers de personnes se sont rassemblées et des citoyens sont venus témoigner de l'influence du révérend dans leur vie. 50 ans après la disparition du pasteur Martin Luther King, Memphis se souvient. Les pleurs, la colère et la détermination de poursuivre le combat continuent de hanter l'esprit des acteurs et témoins cette époque troublée. Comme pour contrer les dérives racistes du 21e siècle, des voix s'élèvent et racontent une histoire qui semble tristement se répéter. Qu'ils soient enseignants, historiens, auteurs ou musiciens, ils conservent tous cet engagement citoyen qui rime leur quotidien. Grâce au soutien et la collaboration de Radio France Internationale, je vous invite à rencontrer ces hommes, ces femmes attachés à l'égalité raciale. Ils ont tous en mémoire des images terrifiantes, des déclarations insultantes, violentes, mais ils ont fait face et se font un devoir de compter leur courage épopé pour que l'avenir de leurs enfants soit assuré. À Toronto, ce triste anniversaire s'est passé sous silence dans la communauté francophone. Par contre, à Montréal, ils étaient nombreux à se rassembler. Et bravo à Radio-Canada d'avoir souligné cet événement avec notre amie de toujours, la première femme juge noire et francophone du Québec, Juanita Westmoreland Traoré, l'ancienne commissaire de la Commission de l'équité en matière d'emploi de l'Ontario. Et il y avait aussi tant d'autres invités à cette émission de Radio-Canada. Il y avait aussi des artistes noirs de la région de Montréal, des francophones, qui étaient invités à participer, à témoigner et aussi donner cet aperçu des réalités des Noirs, que vivent les Noirs, surtout les jeunes Noirs à Montréal, mais aussi au Canada. Et aujourd'hui, dans un instant, nous allons vous passer à notre premier témoin, Bertha Looney, qui est aujourd'hui enseignante au Southwest Tennessee Community College de Memphis.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
We will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day.
Nous devons être capables de prier ensemble, de combattre ensemble, d'aller en prison ensemble, d'être libre ensemble.
Sweet land of liberty of thee I sing. Land where my fathers died, land.
Prions sur cette douce terre de liberté. Ici, mon père est mort. Ici, les premiers pèlerins ont prié. Faisons en sorte que l'Amérique devienne une nation libre et digne.
Contemporaine du peuple noir, rarement un leader aura autant marqué les siens que Martin Luther King, l'apôtre de la non-violence. Aujourd'hui encore, le pasteur protestant, symbole de la lutte pour l'égalité entre les races, fait toujours partie du programme scolaire dans la plupart des écoles en Afrique subsaharienne. Et l'anniversaire de sa mort fait désormais l'objet dans la majorité des pays au sud du Sahara d'une commémoration particulière. Aux États-Unis aussi, 38 États sur les 50 que compte la Fédération célèbrent cette journée.
Bertha Looney est aujourd'hui enseignante au Southwest Tennessee Community College de Memphis. À 76 ans, elle tient à rester en contact avec la jeune génération qui lui donne foi en une paix sociale future. Elle sait combien les temps ont changé, combien les conditions de vie ont évolué, mais elle reste vigilante car sa propre expérience révèle la fracture entre blancs et noirs aux États-Unis. Elle fit partie de Memphis State 8, ses 8 premiers adolescents noirs autorisés à entrer à l'Université de Tennessee en vertu d'une loi fédérale de 1954. Malgré l'opposition farouche des autorités locales et hostilité de 5000 étudiants blancs, elle fit ses premiers pas sur le campus en 1959. Bien qu'elle ne considère pas comme une pionnière du mouvement des droits civiques, elle a progressivement acquis une réputation de femme téméraire. Elle participa même aux marches non violentes initiées par Martin Luther King, qu'elle rencontra la veille de son assassinat. Reportage.
I just want to do God's will. And I've seen the promised land.
When I heard that he had been shot, I was en route to the Peabody Hotel where I worked.
Quand j'ai entendu l'annonce de son assassinat à la radio, je me dirigeais vers le Peabody Hotel. Je ne voulais pas y croire. Une fois arrivé sur place, l'hôtel était noir de monde et cerné par la police. Exceptionnellement, les autorités nous ont autorisés à entrer dans l'hôtel, habituellement réservé à la clientèle blanche. La radio ne cessait d'annoncer l'assassinat de Martin Luther King au Lorraine Motel. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Il était donc impossible d'avoir des informations instantanément. Nous étions donc tous à l'écoute de la radio locale. Je me disais, « Oh non, c'est pas possible. » Peut-être qu'à l'hôpital, ils parviendront à le maintenir en vie. Devant le Peabody Hotel, une foule imposante s'était réunie. Et la police a finalement décrété le couvre-feu jusqu'au lendemain matin. Évidemment, les Noirs étaient arrêtés en priorité. Nous ne faisions rien de répréhensible, mais la police cherchait à éviter toute confrontation qui aurait pu mener à des émeutes, comme ce fut le cas dans de nombreuses villes à travers le pays.
Many citizens were sorry about that.
We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop.
It was sadness for those that truly followed Dr. King and really cared about him.
Il y avait beaucoup de tristesse, notamment parmi les partisans de Martin Luther King. Pour les autres, c'était peut-être le moyen de faire taire, une bonne fois pour toutes, la rébellion de la communauté noire. En tout cas, pour nous, c'était un jour de profonde tristesse. Nous avions le sentiment d'avoir perdu un membre de notre famille. Il a été un très grand leader. Peu de gens ont ce talent de galvaniser les foules. Nous avions souvent organisé des marches dans la ville, mais lorsque Martin Luther King y participait, l'ambiance était tout autre. On s'arrangeait pour se rendre disponible et participer à ces manifestations dont l'ampleur était inédite. Cet homme prenait la non-violence, et si nous suivions cette philosophie aujourd'hui, le monde s'en porterait beaucoup mieux.
Hommage à Martin Luther King. 50 ans après sa mort, que reste-t-il du rêve de ce personnage? Cinquante ans après l'assassinat de Martin Luther King, assistons-nous au retour de la question noire aux États-Unis. Il y a 50 ans, Martin Luther King était assassiné. Il reste pour l'histoire l'incarnation de la lutte pour les droits civiques des Noirs américains et c'est une figure régulièrement mobilisée dans l'actualité. Aux États-Unis, par le mouvement Black Lives Matter, qui milite contre les violences policières. Chez nous, au Canada, ce même mouvement dénonce les contrôles de police chez les Noirs et toute autre forme de discrimination. Son héritage a même été mobilisé pour comprendre l'immense succès planétaire en ce début de l'année 2018 avec le film super-héros Black Panther, qui présente à l'écran une représentation contemporaine de la fierté noire. Lors de cette journée de commémoration à Memphis, nous voyons sur une photo une femme qui tient un panneau « I am a man ». Je lui dois le droit de travailler, le droit de voter, je lui dois ma vie, nous dit émue cette femme de Memphis qui se souvient de l'œuvre de Martin Luther King. Et notre deuxième invité témoin. Memphis a été un carrefour sonore majeur au milieu des années 60 avec les chanteurs, donné de la voix pour soutenir les combattants de la liberté. Le producteur, parolier, entrepreneur américain David Porter fut un membre éminent de Stax Records, l'un des labels où blancs et noirs œuvraient ensemble pour le bien commun. Il n'a pas oublié l'effroi que suscita la mort de Martin Luther King au sein de sa famille de musiciens et l'impérieuse nécessité de réagir. Colère et profonde tristesse. La voix de ce producteur parolier entrepreneur américain, David Porter.
I just want to do God's will. I've seen the promised land.
You know, the interesting thing about that day was when I heard it.
Ce dont je me souviens précisément, c'est lorsque j'ai appris la nouvelle. J'ai eu l'impression que le ciel s'était subitement assombri. C'était la pire des choses qui pouvaient nous arriver. Le ciel nous tombait sur la tête. Il est très difficile de vous décrire nos sentiments d'alors. Je dirais juste qu'il y avait de la colère dans nos esprits. Nous étions dévastés. Alors que nous étions en studio, des tanks de l'armée américaine se déployaient dans la ville. La garde nationale avait été mobilisée. Ce fut un moment dramatique pour notre génération. Nous savions que l'avenir serait difficile. Je le répète, nous étions partagés entre la colère et une profonde tristesse. L'aura de Martin Luther King avait envahi Memphis quelques jours avant son assassinat, mais sa légende s'est accrue le jour de sa mort. Subitement, nous prenions conscience qu'il ne serait plus avec nous pour les combats futurs. Nous avons alors réalisé que son engagement, de fait, nous revenait.
Then the true magnitude of what had happened resonated with us.
We want to be free.
When it happened, we rushed, Isaac and I rushed down.
Le jour de l'assassinat de Martin Luther King, Isaac Hayes et moi-même, nous nous sommes précipités au Lorraine Motel. Ce qui venait de se passer était très grave, car le pasteur King était devenu le symbole de ce que nous espérions. Il était notre leader, et sa disparition a eu un impact mondial. Je pense qu'à partir de ce moment-là, nous avons tous voulu devenir des messagers. Le titre « I'm Black and I'm Proud » de James Brown était l'exemple parfait de ce désir de dénoncer la situation sociale et raciale de l'époque. De notre côté, nous n'avons jamais cessé d'interpeller la société. Les Staple Singers furent nos meilleurs porte-parole. Nous avons également exprimé nos inquiétudes dans les chansons d'Isaac Hayes ou celles de Johnny Taylor. Mais nous n'étions pas des activistes. Nous nous contentions de transmettre des messages. Otis Redding, qui nous a quittés très jeunes, était également un des illustres ambassadeurs de cette cause égalitaire.
Et si on jetait un coup d'œil dans notre propre jardin, madame, monsieur, saviez-vous qu'il existait des écoles séparées en Ontario? Eh oui, longtemps considérée comme le centre intellectuel du Canada, la façon dont l'Ontario allait traiter cette imposante population de nouveaux arrivants noirs allait guider et inspirer le reste du pays. Au plus fort du premier mouvement pour la liberté de l'Amérique du Nord, qui prit la forme du chemin de fer clandestin, fut adoptée la Common Schools Act qui permettait la création d'écoles séparées. Prévues au départ pour séparer les écoles selon leur appartenance religieuse, c'est-à-dire séparer les écoles protestantes des catholiques, elle fut en fait appliquée pour établir des écoles séparées pour les Noirs, surtout dans les régions de la province où les abolitionnistes n'étaient pas légion. Il n'y eut pas d'école séparée à Toronto, mais il en y eut dans le sud-ouest de l'Ontario, à Windsor, à Chatham plus particulièrement. Et dans de nombreux cas, les familles noires ne voulaient pas nécessairement que leurs enfants aillent dans des écoles réservées aux Noirs, mais furent obligées de les envoyer après avoir essuyé le refus de l'école du quartier, à savoir l'école réservée aux Blancs. C'est en 1965 que la dernière école destinée aux enfants noirs ferma ses portes en Ontario. Située près de Chatham, à Merlin, elle fut fermée à la suite des pressions exercées par des Afro-Canadiens. Ailleurs, à la même époque, les écoles séparées fermèrent progressivement leurs portes. La dernière à fermer ses portes au Canada fut une école en Nouvelle-Écosse en 1983. Et je vois une autre photo ici, lors de cette journée de commémoration aux États-Unis. Levez-vous et faites-vous entendre, suggère cet homme à Memphis. Je suis encore anxieux et frustré, dit-il. La tâche que nous nous sommes donnée n'est pas encore finie, a déclaré le révérend James Lawson à propos de la croisade de Martin Luther King pour l'égalité pour tous. C'est lui qui avait invité le pasteur à Memphis en 1968. Et à ne pas oublier, madame, monsieur, dans la deuxième heure à 12h30 environ, nous allons accueillir celle qui détient la clé du printemps, Marcelle Lynn, fondatrice de Ciné Franco, collaboratrice à cette émission, qui nous présente en partenariat avec Québec Cinéma. Ciné Franco vous présente, vous apporte le meilleur des films les plus récents sortis du Québec avec Québec Cinéma. C'est spécial Québec au cinéma Carlton, 14-15 avril prochain, donc la fin de semaine prochaine, à ne pas oublier.
Et bientôt à l'émission Priorité Santé, votre magazine pour rester en bonne santé. Si aujourd'hui bon nombre de maladies peuvent être soignées grâce à des médicaments, nous pouvons aussi nous attaquer aux causes directes de nos maux. Comment, à partir de gestes du quotidien, pouvons-nous éviter certaines maladies? Quels comportements adopter pour préserver une bonne santé? Quels sont les aliments qui soignent? Peut-on lutter contre le vieillissement? Nous avons tous les secrets pour vous. Docteur Gaëtan Brouillard, expert dans le traitement de la douleur chronique, de la médecine préventive et de la médecine fonctionnelle à Montréal, sera bientôt à notre émission. Priorité Santé, votre magazine pour rester en bonne santé, en partenariat avec Reflet Salvéo et Radio France Internationale sur CUT 89,5 FM, Toronto. Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez tous les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
CIUT 89.5, Toronto.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Écouter est la plus grande des qualités. Écouter les enfants, les parents, les professeurs et les coéquipiers. Les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct. Et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écoutez. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre, que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. C'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nous.
Hommage à Martin Luther King. 50 ans après sa mort, que reste-t-il du rêve de ce grand personnage? Archives sonores, témoignages, des témoins encore vivants tout au long de cette émission. Et oui, c'était il y a tout juste 50 ans, 4 avril 1968, au Lorraine Motel de Memphis, Tennessee.
venu soutenir une grève des éboueurs, le pasteur américain Martin Luther King était tué d'une seule balle tirée en direction du balcon de sa chambre. Un demi-siècle après la mort du prix Nobel de la paix, de cet infatigable militant des droits civiques, que reste-t-il de l'héritage de cet homme de paix, leader charismatique et figure mythique de l'Amérique des années 50 et 60? Je vous recommande un livre de Sébastien Danchin, historien, musicien, spécialiste des musiques africaines, américaines. Il a notamment publié un livre très intéressant, Memphis Blues, aux éditions du Chêne. Une autre œuvre magistrale que j'aime bien, l'encyclopédie du Rhythm and Blues et de la Soul, paru chez Fayard. Rubrique musique avec Alain Pilot à Radio France Internationale qui présente aujourd'hui le nouvel album sorti 21 de Sammy DeCoster, un disque magnétique, un voyage entre ballade authentique et rock'n'roll sauvage.
Vous m'en direz des nouvelles ?
Jean-François Cadet,
Michael Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'était il y a 50 ans, le 4 avril 1968, Lorraine Motel de Memphis, Tennessee, venu soutenir une grève des éboueurs, le pasteur américain Martin Luther King Jr. était tué d'une seule balle tirée en direction du balcon de sa chambre. C'est cette scène qui ouvre le roman graphique que viennent de rééditer les éditions 21 grammes, Martin Luther King, le rêve assassiné. Notre réalisateur Michael Goncalves, la mise en onde pour VMDS.
4 avril 1968, le révérend King et ses proches conseillers attendent dans un motel de Memphis l'autorisation de manifester dans les rues de la ville.
On ne se laissera pas arrêter par les juges. Nous avons un droit moral à manifester.
L'avocat arrive.
Le juge a tranché en notre faveur.
Excellente nouvelle. Allons dîner.
Sur la coursive, Martin Luther King Jr. prend un moment seul pour rassembler ses idées. Un seul coup de feu. Martin Luther King Jr. est touché par une balle de calibre 30 qui entre par la joue droite.
Martin !
Martin ! C'est moi, Ralph ! Réponds-moi !
Mais Martin Luther King Jr. ne répond plus. Moins d'une heure plus tard, il est officiellement déclaré mort. Enfin libre. Enfin libre. Merci Dieu Tout-Puissant. Je suis enfin libre. Épitaphe du révérend Martin Luther King Jr.
C'est donc par ce prologue que commence cet album signé de deux scénaristes américains, Michael Tate-Elbaum et Louis Elfand, et d'un dessinateur indien, Naresh Kumar, traduit et adapté en français par Jean-Christophe Dallery. Bonjour Jean-Paul Moulin.
Bonjour.
Vous êtes l'éditeur de cet album, vous dirigez les éditions 21 grammes dans cette collection baptisée Destin d'Histoire. Et il essaie cet éditeur de brosser comme ça les portraits de plusieurs grandes figures qui ont changé notre monde, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. En quoi pour vous, Jean-Paul Moulin, ce personnage de Martin Luther King Jr. s'inscrit-il pleinement dans cette collection ?
Martin Luther King, c'est d'abord le leader de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Bon, il se trouve que je vis à cheval entre les États-Unis et la France et qu'il est très présent. Il est d'abord très présent parce qu'il y a des rues dans toutes les villes, dans tous les quartiers, des avenues. Martin Luther King a vraiment une reconnaissance importante et fait partie du paysage physiquement par le nom des rues. Mais il fait aussi partie du paysage parce qu'il a un petit peu, d'une certaine façon, pour le milieu, on va dire, moi je vis en partie à New York, donc c'est un milieu relativement libéral. Il a un peu aidé à dépasser la faute originale de l'identité des États-Unis, qui est l'esclavage, parce qu'à un moment donné, le pays est arrivé, grâce à Lyndon B. Johnson et à Martin Luther King, de proposer en tout cas légalement une place égale aux Noirs.
Alors sur la couverture de cet album, il y a cet homme au regard à la fois doux et déterminé, un homme de paix et de combat en même temps, leader charismatique de ce mouvement des droits civiques, figure mythique évidemment de l'Amérique des années 50 et 60. 60 devant un drapeau américain immense, drapeau taché de sang. Alors c'est une collection qui se veut très pédagogique. Hein. Quand on rentre à l'intérieur de l'album, on s'en rend compte. Il y a l'histoire proprement dite et puis il y a un dossier illustré avec des éléments de chronologie très importants sur l'ensemble de l'histoire de l'émancipation des Noirs aux États-Unis. Il y a une frise historique qui démarre en 1619, hein, quand les premiers esclaves débarquent et ça va jusqu'à l'élection d'Obama à la Maison Blanche. Dans le texte qui suit, vous-même, vous racontez, Jean-Paul Moulin, l'histoire de celui qui a tiré ce fameux 4 avril 68, James Earl Ray. Alors, racontez-nous, qui était l'assassin de Martin Luther King ?
Alors, d'abord, bon, évidemment, en France, avec tout ce qui s'est passé autour de l'assassinat des deux frères Kennedy, on se pose un certain nombre de questions sur tout ça. C'est difficile de croire qu'une personne aussi importante que Martin Luther King n'a pas été victime d'un complot.
Oui. D'ailleurs, en tout cas, la famille de Martin Luther King elle-même croit toujours.
Il y a même eu un procès, mais qui est un procès qui s'est passé dans des conditions spéciales, qui a reconnu l'histoire d'un complot. Donc, moi, je suis rentré dans ce travail-là, et dans finalement le travail sur Martin Luther King, en me disant, c'est pas possible, il y a quelque part un complot, puis on connaît aux États-Unis les puissances d'argent, les puissances liées aux armes. Il se trouve que Martin Luther King avait commencé à cette époque-là à se battre contre la guerre du Vietnam, c'est-à-dire c'est quand même assez tôt, c'est en 67 qui fait un grand discours sur le sujet. Donc ça avait l'air d'un complot. Et puis on creuse, on regarde les informations et en fait non, c'est pas un complot, c'est un individu.
On le sait ça de façon certaine aujourd'hui.
Oui, je pense qu'on le sait de façon certaine. Alors il y a un petit point d'interrogation, c'est qu'il y a des documents de la commission d'enquête de l'époque qui ne sont pas encore accessibles.
Oui, donc il pourrait y avoir des révélations lorsque ces documents seront ouverts aux chercheurs notamment. Et après,
ça c'est possible, mais en tout cas Il y a tout un faisceau de gens. Les gens qui disent que c'est un complot n'arrivent pas à le démontrer. Et les gens qui disent que c'en est pas un sont sérieux et ont démontré un certain nombre de choses sur le parcours de cet individu. Alors, cet individu, c'est d'abord une personne d'extrême droite. Il y a toute une haine très forte de ces petits blancs. C'est un petit blanc, c'est un type qui s'est évadé de prison près d'un an auparavant. Et qui a une fausse identité, qui a un vrai objectif personnel, qui est d'aller s'engager en Afrique pour lutter contre la décolonisation dans un pays qui est la Rhodésie, qui vient de déclarer son indépendance. Donc il a un vrai projet cohérent par rapport à ça. Et lui, il se dit, et parce que c'est un individu bizarre, hein, c'est manifestement une personne qui a un problème d'équilibre psychologique, il se dit, ben voilà, je vais tuer Martin Luther King, je vais aller en Rhodésie, et là-bas, je vais être accueilli comme héros, et je vais me faire une place dans ce pays-là qui n'a duré que quelques années, et qui était une tentative du dernier colon blanc d'avoir un pays blanc en Afrique. Moi, après les recherches que j'ai faites, les discussions que j'ai eues avec les gens qui connaissaient le sujet, je suis persuadé que qu'il a agi seul.
Il a agi seul et donc il a fui, hein, et il a fui jusqu'en Europe. Il a été arrêté à Londres à l'aéroport d'Heathrow. Il va être traduit en justice, hein, comme vous le disiez. Il peut être coupable, ce qui va lui permettre d'échapper à la peine de mort.
Voilà, en fait, et c'est ça, en plaidant coupable, il n'y a pas de procès.
Voilà.
Et c'est aussi ça qui fait qu'on a des doutes.
Et donc il est condamné à 99 ans de prison. C'est la peine maximale ?
C'était la peine maximale dans le cadre de l'accord que son avocat et lui ont passé avec la justice. Il va même s'évader de prison une dizaine ou une quinzaine d'années après, et être repris. Voilà, il va se passer. Mais vraiment, clairement, on voit que c'est quelqu'un qui est un déséquilibré, quoi.
When you're down in trouble, you need some love and care.
Precious Lord, take my hand, Aretha Franklin, lors des funérailles de Martin Luther King. Bonjour Sébastien Danchin.
Bonjour.
Vous êtes historien, musicien, vous êtes notamment beaucoup intéressé aux musiques noires. Vous avez publié un beau livre aux éditions du Chêne intitulé Memphis Blues, coécrit avec l'harmoniciste Jean-Jacques Milteau, et une encyclopédie du Rhythm Blues et de la Soul chez Fayard. Quelques mots sur ce moment-là et sur cette chanson avec la voix d'Aretha Franklin.
La voix d'Aretha Franklin, c'est la voix du gospel ce jour-là. Il pouvait y avoir Mahalia Jackson et il pouvait y avoir Aretha Franklin. Les deux sont concernés évidemment par ça. Mahalia Jackson connaissait très bien le pasteur King puisqu'elle avait chanté très souvent lors de ses meetings et des rencontres. Aretha Franklin, elle le connaissait depuis l'enfance puisque le père d'Aretha était un pasteur extrêmement connu dans l'Amérique noire, un pasteur de Détroit, très célèbre. C'était une célébrité, c'est quelqu'un qui avait vendu des millions de disques de ses prêches. Et donc c'était une personnalité, et pour vous donner une idée de la proximité qu'il y avait entre ces deux familles, entre la famille King et la famille Franklin, le fameux discours I Have a Dream qui a été prononcé en août 63 par Martin Luther King a été testé dans l'église du révérend Franklin quelques mois plus tôt, donc à Détroit. Il avait voulu... comme tous les discours de Martin Luther King, c'était des improvisations très préparées, avec un certain nombre de phrases fortes qui revenaient, sur lesquelles il pouvait improviser. C'est d'ailleurs très intéressant de voir à quel point il y a un parallèle entre, par exemple, la musique de jazz et l'improvisation orale de quelqu'un comme Martin Luther King. On voit bien que on est en plein dans l'oralité là-dedans, et que le fonctionnement est le même. Il y a des grandes lignes, il y a une structure, une construction, et puis derrière on peut improviser.
Alors cet endroit où se déroule l'assassinat de Martin Luther King, ce fameux Lorraine Motel où il est assassiné à l'époque, à Memphis, c'est un peu le rendez-vous des artistes noirs ?
C'est le rendez-vous de toutes les personnalités noires. Alors évidemment, les personnalités noires, ce sont beaucoup de boxeurs, ce sont pas énormément de journalistes, d'hommes politiques à l'époque, ce sont beaucoup de boxeurs, de sportifs, de gens qui viennent du monde de la musique, et c'est un des rares endroits où ils peuvent descendre en ville dans un hôtel. Tous les hôtels du centre-ville ne sont pas ouverts aux noirs, sinon comme domestiques. Et donc, il n'y a pas 36 endroits, ils peuvent aller. Ils vont tous au Lorraine Motel. Ensuite, c'est un motel qui est situé en plein dans le quartier afro-américain, très bien situé par rapport à l'artère principale de cette ville noire qui était Bill Street. Et donc, c'est vraiment à une portée de flèche de ça. C'était normal qu'ils descendent là. Puisqu'on parle de Martin Luther King et de la musique, et qu'on voit que la musique joue un rôle important dans son pastorat, il faut savoir que la dernière personne à qui il a adressé la parole, c'était son directeur musical, Ben Branch, qui était juste en bas. Et quand on le voit, et les dernières photos, on le voit en train de parler et de lui dire ce qu'il va, ce qu'il veut que l'autre joue et fasse chanter ce soir-là lors du meeting. C'est les derniers préparatifs.
Donc jusqu'au bout, donc la musique dans la peau, dans la tête et dans la façon de porter son combat.
Oui, parce que il faut pas considérer, je crois, la musique noire comme simplement il faut surtout pas le considérer comme simplement un style, mais comme une façon d'exprimer un fardeau et une histoire.
Alors ce motel qui accueille aujourd'hui d'ailleurs le Musée National des Droits Civiques, vous l'avez visité, Jean-Paul Moulin, vous y êtes allé et vous avez été, je crois, saisi par l'émotion très particulière qui se dégage de ce lieu chargé d'histoire.
Oui, alors là, peut-être pour ceux qui le connaissent, c'est assez proche comme mise en scène du Musée de la Première Guerre mondiale qui se trouve à Meaux en région parisienne. On est très proche dans la scénographie. Et effectivement, on est amené à se déplacer au milieu de sculptures à taille humaine des manifestants. En plus des documents, en plus de ces choses-là, évidemment, il y a beaucoup d'audiovisuel. Et l'arrivée sur le balcon, ou à proximité du balcon, qui a été refait en fait en quelque sorte, et la chambre, se fait à la fin de la visite. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, je vous conseille d'y aller. D'abord, il y a une attente parce qu'on connaît cette histoire, on a envie d'en savoir un peu plus. Et puis, on est porté par l'humanisme des valeurs de Martin Luther King et de cette lutte. Mais arriver dans ce musée, petit à petit découvrir ce qui s'est passé, comprendre tout ce qui s'est passé avant aussi, et terminer la visite par cette chambre, par ce balcon. Et puis, de ce balcon, en fait, on a encore aujourd'hui visibilité sur l'endroit d'où a été tirée la balle, qui est de l'autre côté de la rue, à une centaine de mètres. C'est vraiment très saisissant et très poignant. Et ça donne envie de faire des choses.
Actuellement en France, une exposition rend hommage à Martin Luther King. Ça se passe à la bibliothèque municipale de Lyon, où il s'était d'ailleurs rendu, on le sait peu, en 1966. Une visite à laquelle avait assisté Christian Delorme, qui deviendra ensuite prêtre, et qui va initier en France en 1983 ce que les médias ont surnommé la marche des beurs, mais qui s'appelait en réalité la marche pour l'égalité et contre le racisme. Et on voit d'ailleurs la continuité entre ces deux manifestations. Et Christian Delorme a mis à disposition notamment les archives de sa collection pour cette exposition que Daphné Gastaldi a visitée pour nous.
I have a dream that my four little children...
Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve.
Donc, je suis Michel Chamara, je suis le commissaire de l'exposition Martin Luther King, le rêve brisé, point d'interrogation. Ça renvoie à la marche Washington du mois d'août 1963, où il y avait eu le I have a dream, la fameuse phrase prononcée par le pasteur d'Atlanta, Martin Luther King, qui dit je fais un rêve pour mon pays, je fais un rêve pour mes enfants. Donc on s'est posé la question au niveau de la bibliothèque de Lyon, comment lui rendre hommage. Le rêve brisé, est-ce que 55 ans après la marche de Washington, où on est la condition des Noirs aux États-Unis? Et puis il y avait quand même un clin d'œil assez terrifiant par rapport à l'actualité, par rapport aux déclarations de Donald Trump. Il y a bien sûr les provocations policières qui visent essentiellement la population noire.
On continue avec ces écrans un peu partout qui montrent des extraits, la foule de la marche des droits civiques à Washington.
Oui, l'idée c'est que les visiteurs soient pris évidemment par l'ambiance, comme s'ils étaient à la marche. Là on est maintenant dans ce qu'on appelle la salle des portraits, la galerie des portraits. La plupart des leaders noirs qui se sont battus pour les droits.
Cette galerie commence avec l'immense écrivain James Baldwin, puis on voit Rosa Parks juste à côté.
Donc Rosa Parks, mon idole, mon icône, parce que c'est extraordinaire ce qu'elle a fait. Elle a refusé de céder sa place dans un autobus, puisque les autobus, il y avait des places pour les Noirs et pour la ségrégation au quotidien, c'était ça aussi. C'est là aussi que Martin Luther King est venu la rejoindre. On se trouve dans la reconstitution du temple d'Atlanta où Martin Luther King a officié pendant une quinzaine d'années, où sa mère d'ailleurs a été assassinée plus tard. Et l'idée, c'était quand même rappeler l'aspect religieux du personnage, puisqu'il était un pasteur.
On connaît le fameux discours de la marche des droits à Washington en 1963, mais on connaît moins le discours de Lyon.
Oui, parce que la majeure partie des gens l'ignorent, qu'il est venu à Lyon le 29 mars 1966 à la Bourse du Travail. Et on voit aussi le reportage fait par les actualités régionales. C'est la seule trace cinématographique que nous avons.
Après que la chorale du lycée du Parc ait chanté les Negro Spirituals, le pasteur Martin Luther King prononça un long discours. Depuis l'abolition de l'esclavage, devait-il dire, les Noirs américains ont été encore exploités. Mais actuellement, une possibilité de révolution non violente a fait son apparition. Notre lutte se poursuivra, conclut le leader noir, et nous triompherons un jour.
Là, on est dans la rue Martin Luther King.
On peut dire rue Martin Luther King, pasteur prix Nobel de la paix. Et on voit sa date de décès, 4 avril 1968, à Memphis.
Il a été assassiné il y a 50 ans à Memphis. Il venait soutenir une grève des éboueurs. Il avait fait l'objet de différentes tentatives d'assassinat. Il savait qu'il était très menacé. Mais justement, quand vous êtes un militant, vous transcendez votre peur, quitte à en mourir.
Vous avez évidemment reconnu la voix et la guitare de John Baez, Sébastien Danchin. Elle a été, elle aussi, très tôt aux côtés du pasteur King.
Oui, parce que c'était la lutte du pasteur King était une lutte écuménique. Elle était une lutte écuménique dans la mesure où il voulait associer toutes les religions. Il y a énormément de rabbins qui l'ont accompagné. Il y a eu des catholiques, il y a eu toutes sortes de dénominations protestantes, etc. Et puis il y a des gens qui venaient de toutes les communautés, et donc évidemment de la communauté blanche. Ce qu'on remarque, c'est qu'au moment où il meurt en 1968, il y a une vraie radicalisation qui était déjà en route. Le discours de Martin Luther King, bon, vous le savez, il a été fondé énormément sur la pensée de Soros, et sur la désobéissance civile, et donc le droit, en fait, de dire non à un État qui serait injuste, c'est une question qui s'est posée chez nous, par exemple, au moment de Vichy.
Oui.
Donc c'est des questions qui sont tout à fait fondamentales, c'est des questions qui se sont posées en Inde au moment des luttes pour l'indépendance, et Gandhi s'est référé énormément à Soros, bien évidemment. Mais le travail qu'il avait fait était un travail donc de non-violence, et le principe de tendre la joue gauche en permanence était devenu extrêmement, je dirais, douloureux et lourd pour beaucoup des Américains, des Afro-Américains des nouvelles générations. À partir de 66, on assiste quand même au sein de la population afro-américaine à une vraie radicalisation et à un refus de la non-violence en tant que telle. La violence a permis un certain nombre de choses. Je pense que ça a été une lutte qui a été extrêmement fertile entre 1954, c'est-à-dire la déségrégation des écoles publiques, et 64-65, c'est-à-dire les lois de Johnson sur les droits civiques. Donc ça a très bien fonctionné. Et puis après, à partir de 66, Martin Luther King a voulu porter sa lutte dans le nord des États-Unis, en particulier dans les grandes villes. Et il a décidé de le faire dans le West Side de Chicago, qui est un des deux grands ghettos afro-américains de Chicago. Et là, il a été confronté à énormément d'échecs. Parce que dans un monde sudiste, la ségrégation, c'était assez manichéen et simple de comprendre les choses. Ouais. Dans le Nord, il n'y avait pas de ségrégation légale, juridique, mais il y avait des séparations de fait et des fossés considérables entre les gens. Et cette lutte-là était très difficile pour lui à mettre en œuvre.
Alors, on parlait de Gandhi à l'instant, Jean-Paul Moulin avec Sébastien Danchin. Gandhi, évidemment, c'est une figure qui fait partie de l'histoire de Martin Luther King, telle que le racontent les auteurs de cet album de bande dessinée que vous publiez chez 21 grammes. On le voit, un étudiant en théologie assister à une conférence sur Gandhi quand il est au séminaire. Il entend vraiment mettre ses pas dans les siens. Il va visiter la famille de Gandhi un peu plus tard, en 59, il va être reçu aussi par Nehru. Et d'ailleurs, cet album de bande dessinée, c'est en Inde qu'il est né. Ça aussi, je pense que c'est important de le noter, parce que ça montre l'universalité du message, et en même temps ce lien très fort qu'il y avait entre le combat de Gandhi et celui de Martin Luther King.
Oui, alors Martin Luther King fait effectivement partie du petit nombre de figures qui ont vraiment un impact mondial, c'est clair. En Inde, les gens savent qui il est, en Afrique, les gens savent qui il est, même en Chine, les gens savent qui il est. Donc alors c'est peut-être dû en partie au fait qu'on a un peu effacé les aspérités du personnage. Aujourd'hui, si on regarde la durée de la lutte, il y a beaucoup d'échecs. C'est pas quelqu'un qui réussit du premier coup. Donc et puis il y a des limites sur la personnalité aussi. Il y a quelqu'un qui a été dépressif, et d'ailleurs c'est une chose qu'on a découvert, oui, en travaillant sur ce niveau-là. Il s'est jeté de la fenêtre quand il avait, je crois, d'une fenêtre quand il avait une quinzaine d'années. Oui. Donc
c'est il y a des moments de profonde faiblesse.
Il y a
pas de découragement, parce qu'il n'arrive jamais au point de rupture, mais on sent quand même, ah si, Sébastien Danchin, un peu de découragement quand même, visiblement.
C'est ce que dit M. Moulin est extrêmement juste. C'était quelqu'un qui était foncièrement, qui se posait des questions existentielles sur le bien et sur le mal. Et d'ailleurs, on le voit dans tous ses écrits. Il le dit à un moment, il y a une phrase qui est restée célèbre, où il dit que de toute façon, le bien finira toujours par gagner, parce que l'amour et le bien sont plus importants que le mal, même face au mal triomphant. Mais donc, ça veut dire qu'il envisage le mal triomphant et qu'il est confronté au mal triomphant en permanence dans sa vie. Il vient d'une famille extrêmement bourgeoise. dans l'Amérique noire. C'est ce qu'on appelle le talented tenth, c'est-à-dire ces 10% d'Afro-Américains qui font partie de l'élite. C'est ainsi que les nommé le penseur afro-américain William Edward Burkhardt Dubois. Et ce Martin Luther King, il est très il se pose des questions considérables sur la capacité de l'homme à être bon.
Oui.
Et alors, plus, effectivement, cet incident auquel vous faisiez allusion, c'est-à-dire sur cette tentative de suicide, elle est très significative. C'est quelqu'un qui a une force de vie incroyable et qui est prêt en permanence à donner sa vie pour le bien de l'humanité. Il y a un côté incroyablement christique chez lui. Et il savait qu'il allait mourir. Il a toujours dit qu'il allait être assassiné, etc. Même oui. si j'ai des doutes beaucoup plus profonds que les vôtres sur la culpabilité de James Earl Ray, qui lui-même a dit pendant très longtemps qu'il n'était pas le tireur. Enfin bon, on va pas revenir sur ce débat, mais c'est un fait historique qui n'est tout de même pas avéré totalement.
Il y a un homme qu'on a à peine cité et qui a quand même aussi beaucoup compté dans sa vie, c'est le pasteur Luther King, senior, c'est le père. C'est assez intéressant parce qu'il est à la fois complètement dans son chemin et en même temps, il prend une forme de distance par rapport à la façon de prêcher de son père.
Ça c'est intéressant parce qu'il naît donc dans une. Il est pasteur et je pense que c'est le point aussi important sur ce qu'on vient de dire. C'est d'abord un religieux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un ministère, qui se considère être le berger qui amène son troupeau. Donc ça c'est très important parce qu'on dit Martin Luther King, mais c'est un pasteur Martin Luther King. Et d'ailleurs aux États-Unis on l'appelle Dr King au sens docteur de la loi. Et donc. Et son père est déjà pasteur, mais son père, bien que, et vous le verrez dans la bande dessinée, c'est symbolisé, le père est en but en permanence à cette pas pouvoir acheter des chaussures là où les blancs achètent les chaussures, pas être maltraité par les policiers, mais en même temps, son père n'est pas un révolutionnaire. Son père est dans le système, il fait le mieux pour sa paroisse, il traite le mieux et il traite de l'aspect christique, mais il se construit en tant que pasteur en opposition à son père et avec un modèle qui n'est pas son père.
Et donc lui, il va dépasser justement ce modèle-là. Alors, c'est quoi le déclic, Sébastien Dorfman? Qu'est-ce qui permet
Je pense qu'il y a un déclic générationnel déjà. Et puis de toute façon, ce débat entre doit-on demander l'égalité de traitement dans la séparation, ce que voulait la loi 1896 qui a permis les lois de la ségrégation, loi qui a été battue en brèche par les décisions de la Cour suprême en 1954. Ce débat entre est-ce qu'on doit en réalité collaborer, accepter le système, progresser lentement et puis finalement obtenir notre liberté, ou est-ce qu'on doit faire une lutte de libéralisation et de libération? C'est un débat qui est extrêmement vieux au sein de la communauté noire. Et la ville d'Atlanta occupe une place extrêmement importante dans cette histoire afro-américaine.
Et il était pasteur à Atlanta.
Exactement. Ils sont originaires de là. C'est là qu'il a
grande
été...
capitale du Sud. Atlanta, grande hein, capitale c'est du la Sud. Ville ségrégationniste par excellence.
Et c'est là qu'il a été... c'est là qu'il est enterré, etc. Et c'est là qu'a été prononcé dans les années 1890 un discours extrêmement important par le premier grand penseur de la cause noire-américaine, qui était Booker T. Washington. Et Booker T. fait, lors d'un congrès, il prononce un discours extrêmement important où il dit « Nous pouvons être comme les cinq doigts de la main, c'est-à-dire séparés, mais unis le jour où il faut réunir le point. » En disant « On peut en réalité vivre encore en harmonie et en cohabitation. Ce que nous demandons, c'est à ce qu'on puisse avoir droit à une éducation, parce que l'éducation est fondamentale. » Et c'est lui d'ailleurs qui va fonder l'Institut Tuskegee, qui va être une école professionnelle pour les Afro-Américains. Et puis en face, vous avez le penseur Dubois, qui lui, à l'inverse, est beaucoup plus révolutionnaire. Et donc, on retrouve ce clivage très net entre les deux King, entre les deux Martin Luther King. C'est-à-dire, celui qui va accepter le poids, mais parce que ça fait partie aussi de sa génération, et puis quelqu'un qui est né en 1929, beaucoup plus jeune, qui lui se souvient que son nom, celui de Martin Luther, c'est celui qui est allé clouer un certain nombre de demandes à la porte de son église et qui a remis en cause le dogme de Rome. Et lui a toujours dit que pour lui, Martin Luther était quand même un exemple extrêmement fort pour la libération. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. God damn.
Hommage à Martin Luther King. 50 ans après sa mort, que reste-t-il de son rêve? Une émission spéciale présentée en collaboration avec Radio France Internationale.
Sur quelle planète suis-je tombé?
La planète Terre.
Bonjour. RFI.
RFI, on en fait tout un monde.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk, soul, and everything in between on Higher Ground with Jason Palma. Thursday nights at 8. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
CIUT 89.5 FM continues to be the sound of your city. Of course, we could not have done it without all of your generous support. The Sound of Your City membership drive is starting up again soon. So stay tuned or visit www.ciut.fm for more details.
What is experimental film? Check out the 31st anniversary of Toronto's first interdisciplinary artist festival to find out. Images Festival showcases artistic excellence in contemporary moving image culture through 13 gallery exhibitions, 78 on-screen works, and 5 live performances happening throughout the GTA. 31st Annual Images Festival takes place April 12th to 20th. Follow us at Images Festival or visit our website at imagesfestival.com for more details and to find out how you can win tickets.
CIUT 89.5 Toronto. Michael Ponge.
À la une, Lula derrière les barreaux. L'ex-président brésilien est arrivé hier soir à la prison de Curitiba au sud du pays afin de commencer à purger sa peine de 12 ans pour corruption. Deux jours après le mandat de dépôt d'un juge, il s'est rendu à la police, retranché dans les locaux du syndicat des métallurgistes près de Sao Paulo. Il a brièvement été empêché hier en fin de journée de partir par quelques dizaines de militants opposés à sa reddition. Une scène chaotique avant d'être finalement donc emmené par les agents fédéraux. L'ouverture des bureaux de vote en Hongrie, dans une demi-heure maintenant, élection législative à un seul tour ce dimanche. La principale inconnue porte sur le taux de participation et sur l'ampleur de la victoire promise au parti du Premier ministre Viktor Orban, qui devrait sans surprise être reconduit pour un troisième mandat de 4 ans. Il pourrait néanmoins devoir cette fois-ci se contenter d'une majorité relative. Angela Merkel se dit profondément bouleversée. Hier, un Allemand de 48 ans, connu pour ses troubles psychologiques, a tué deux personnes en fonçant avec une camionnette sur la terrasse d'un café dans la ville de Münster. Avant de se suicider, la police écarte la piste islamiste. En France, nouveau tour de grève à la SNCF, ça va durer jusqu'à mardi. Un TGV sur 5 et un Transilien sur 3 en moyenne devraient circuler ce dimanche et le mouvement contre la réforme ferroviaire pourrait durer au-delà du mois de juin, a prévenu la CGT Francine Quentin.
C'est le deuxième round dans le combat qui oppose le gouvernement aux cheminots. La règle du jeu établie par les syndicats, à savoir 2 jours de grève sur 5, complique les anticipations des usagers. Le mouvement, qui va durer jusqu'à lundi matin, devrait être suivi, selon la direction, par 35% des salariés indispensables au fonctionnement du service, les conducteurs, les contrôleurs et les aiguilleurs, entraînant encore de fortes perturbations. La CGT a même laissé planer la menace que le mouvement prévu jusqu'à fin juin se poursuivent au-delà de cette date, si aucune véritable négociation ne s'engageait avec le gouvernement. Pour l'instant, le blocage est total entre les syndicats et la ministre des Transports, Elisabeth Borne, sur le statut des cheminots, la reprise de la dette de la SNCF et les recrutements dans l'avenir. Cette grève du rail et les mouvements sociaux qui se multiplient par ailleurs ont conduit Emmanuel Macron à s'exprimer jeudi prochain sur TF1. Car, dit-on à l'Élysée, peut-être certaines mesures ont-elles été mal comprises parce que mal expliquées.
Et dans une interview au Parisien, le Premier ministre Édouard Philippe promet qu'il ira jusqu'au bout. 62% des personnes interrogées par l'IFOP pour le JDD souhaitent que l'exécutif mène cette réforme à son terme. La France, où le puissant prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, arrive ce dimanche pour une visite de 3 jours afin de vanter ses réformes et de resserrer les liens avec Paris. Enfin, après une accalmie de plusieurs jours, le pouvoir a repris vendredi ses raids contre la ville.
I have a dream. One day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My poor little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Émission spéciale, hommage à Martin Luther King, 4 avril 1968, 4 avril 2018. 50 ans après sa mort, que reste-t-il du rêve de Martin Luther King ? À l'occasion de l'opération spéciale 50 ans après l'assassinat de Martin Luther King, assistons-nous au retour de la question noire. Certains s'interrogent sur la représentation de la diversité dans nos médias, par exemple, nos médias francophones, nos médias français, nos médias canadiens. Les non-blancs y sont-ils suffisamment présents et suffisamment bien représentés ? Selon le journal Le Monde en France, il est facile de parler de la question noire quand il s'agit de la circonscrire aux États-Unis, autant cela devient compliqué dans un cadre strictement français. C'est que l'universalisme dont la France se veut porteuse s'accommode mal de telles distinctions, raison pour laquelle les statistiques ethniques sont toujours interdites en France. La question de la diversité dans les médias, diversité liée aux origines, n'en est donc que plus une délicate affaire à manier en Europe, dans la mesure où elle se base avant tout sur des observations empiriques. Observations dont on pourrait déduire ce constat, sans valeur scientifique, les personnes non blanches y sont sous-représentées, que ce soit au sein des équipes ou dans les contenus éditoriaux. Chez nous, au Canada, selon le baromètre de la diversité, on y apprend que les Noirs sont de loin les plus nombreux, tout en restant très minoritaire par rapport aux personnes perçues comme blanches. Y a-t-il donc un problème de représentation des Noirs dans les médias ? Il y a 50 ans, le 4 avril 1969, Martin Luther King était assassiné. Sa voix, sa pensée ont laissé une trace indélébile dans la communauté noire aux États-Unis. Mais que reste-t-il de cet héritage ?
Il y a 50 ans, le 4 avril 1968, Martin Luther King était assassiné à Memphis. 5 ans plus tôt, il avait prononcé à Washington un extraordinaire discours. 9 minutes d'éloquence qui marqueront à jamais l'histoire américaine. Sa voix, sa pensée ont laissé une trace indélébile dans la communauté noire aux États-Unis. Que reste-t-il de cet héritage ? Reportage Catherine Gentil de Cannecaude et Mathieu Derrien.
Son rêve était l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Mais un demi-siècle après sa disparition, le rêve n'est toujours pas devenu réalité. Les enfants afro-américains sont 4 fois plus nombreux que les Blancs à vivre sous le seuil de pauvreté ici à Memphis. Martin Luther King était d'ailleurs venu sur place pour soutenir les ouvriers noirs qui manifestaient contre les discriminations qu'ils subissaient. Ils avaient un salaire inférieur aux blancs et pouvaient être licenciés pour une seule minute de retard.
Ils voulaient avoir les mêmes droits que les autres dans le domaine du travail, bien sûr, mais surtout, ils voulaient être traités humainement.
Dans ce restaurant, le plus vieux et le plus connu du quartier pauvre de la ville, les habitués se réunissent depuis des décennies. La propriétaire a 80 ans et tout le monde ici se souvient comme si c'était hier du dernier discours prononcé la veille de sa mort par celui qu'on appelle ici respectueusement Dr. King.
Oh, my mama. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. All we say to America is be true to what you said on paper. That the greatness of America is the right to protest far right.
Pour moi, le Dr. King, c'est comme si Jésus était revenu sur Terre.
Soudain, il est mort. Le lendemain, le couvre-feu a été décrété. On a tous dû rentrer chez nous et fermer nos magasins. Il n'y avait plus personne dans les rues. C'était un jour tellement triste, il y a 50 ans. Même si elle a réussi dans la vie, Deirdre Malone n'a jamais abandonné son quartier d'origine. Elle se bat en mémoire de Martin Luther King.
Bien sûr qu'on espère toujours obtenir la justice dans tous les domaines, mais 50 ans plus tard, on doit toujours et encore se battre pour y arriver.
Dans cette école, près de 100% des enfants sont afro-américains.
It's transition time.
Quel est le titre du livre déjà ?
Les enseignants ont à cœur de transmettre à leurs élèves les idéaux pour lesquels les générations précédentes se sont battues.
Que dans toutes les montagnes résonne la liberté.
L'objectif était de mettre fin aux discriminations.
La liberté et la justice, qu'est-ce que cela veut dire pour vous ?
Les Blancs et les Noirs étudient les mêmes choses.
Les Noirs et les Blancs vont dans le même restaurant ?
Martin Luther King a été assassiné sur le balcon de cet hôtel qui, à l'époque de la ségrégation, était réservé aux Noirs. Le tireur se serait trouvé à l'une de ses fenêtres, de l'autre côté de la rue. L'hôtel est devenu un musée et un lieu de pèlerinage à la mémoire du Dr. King.
50 ans après sa mort, ici à Memphis, de nombreuses questions restent en suspens, notamment parce que l'assassin s'était rétracté. Mais bientôt, des documents secrets concernant l'enquête vont être déclassifiés. On saura alors peut-être enfin qui a vraiment décidé d'éliminer Martin Luther King.
Martin Luther King a été presque sanctifié par l'Amérique et il est une inspiration. Et tout cas officiellement pour tous les Américains, noirs, blancs, latinos, de gauche ou de droite, croyants ou non-croyants. Mais que reste-t-il de ce rêve 50 ans plus tard ? Aujourd'hui, ce rêve n'est toujours pas une réalité en Amérique. Officiellement, il n'y a plus de ségrégation depuis longtemps, mais le combat pour les droits civiques continue. Dans certains États du Sud, des groupes conservateurs essayent de décourager des Noirs de voter. Un demi-siècle plus tard, force est de constater que les Afro-Américains ne vivent pas encore dans ce rêve, comme l'illustrent les émeutes de Charlottesville ou Ferguson, le mouvement Black Lives Matter ou de nombreuses statistiques qui démontrent qu'il y a un retard pour le progrès chez les Noirs. Aux États-Unis, alors que les Afro-Américains représentent environ 13% de la population, ils composent la moitié des victimes de crimes racistes commis en 2016, selon les statistiques du FBI. Entre 2010 et 2012, les jeunes Noirs tués par la police étaient 20 fois plus nombreux que les jeunes Blancs, d'après ProPublica. Autre chiffre frappant, en 2010, un Afro-Américain avait 6 fois plus de chances de se retrouver en prison qu'un homme blanc, selon l'étude de Pew Research Center. Les Afro-Américains sont également plus fréquemment condamnés à tort. Depuis 1989, 47% des 2000 erreurs judiciaires commises par le système judiciaire américain ont concerné des Noirs, selon un rapport du Nation Registry of Exonerations. Les discriminations et les inégalités subies par les citoyens afro-américains sont aussi économiques. En 2012, 27,2% des Noirs vivaient sous le seuil de la pauvreté, contre 9,6% pour les Blancs, selon l'étude de Census Bureau développée par L'Express. De même, en 2015, 11,2% des Noirs étaient au chômage contre 4,6% des Blancs, d'après le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Et les Blancs étaient en moyenne 13 fois plus riches que les Noirs, d'après le Pew Research Center. Ces disparités sont enfin sanitaires. En 2009, les Afro-Américains avaient le taux le plus élevé de morts par crise cardiaque. L'élection du premier président noir, il y a 10 ans, a pu laisser croire qu'on entrait dans une nouvelle ère post-raciale, mais ce n'était qu'un mirage. On le voit avec le mouvement Black Lives Matter, les vies noires comptent aussi, un mouvement haï par l'Amérique conservatrice qui le voit comme une menace, comme Martin Luther King était haï. Ces militants protestent contre les violences raciales après une série de bavures policières. Les parents noirs tiennent presque tous le même discours à leurs adolescents, ce qu'ils appellent le « talk ». Si tu es arrêté pour un contrôle d'identité ou un contrôle routier, surtout, ne conteste jamais, ne proteste jamais, ne te rebelle jamais, car tu risques d'être abattu. On est loin du rêve que faisait Martin Luther King pour ses petits-enfants. Martin Luther King est l'une des figures les plus étudiées de l'histoire des États-Unis. Comme pour George Washington, Thomas Jefferson ou Abraham Lincoln, les évaluations de son action et de son héritage sont très contrastées et évoluent encore actuellement. L'extraordinaire influence de King n'a pratiquement pas diminué depuis sa mort. Sa vie, sa pensée, son caractère sont plus complexes que les biographies ne les ont initialement dépeints.
Nous poursuivons notre réflexion avec vous, Kessa Fleming. Vous êtes professeur de sociologie à Stony Brook University. Vous êtes aussi l'auteur de deux ouvrages que je ne prononcerai pas en anglais pour ne pas en écorcher le nom. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Que reste-t-il tout d'abord du combat de Martin Luther King 50 ans plus tard?
Il y a 10 ans, donc c'est-à-dire en 2008, j'étais invitée à France 24 pour parler du même sujet. Et à l'époque, on avait le candidat Barack Obama qui incarnait pour beaucoup de gens le rêve de Martin Luther King. Et à l'époque, je partageais ses sentiments. Mais je pense qu'après 10 ans de réflexion et de recherche aussi sur le racisme aux États-Unis et aussi en France, je peux vous dire que l'héritage de Martin Luther King n'est pas du tout la vision et la politique menée par Barack Obama, ou par la plupart des Américains, malheureusement. Parce qu'en fait, à la fin de sa vie, Martin Luther King ne luttait pas uniquement pour les droits civiques, mais bien sûr aussi pour la cause de pauvreté, pour les pauvres. Et aussi, il était contre la guerre au Vietnam. Il a voyé bien le lien entre le racisme, la pauvreté, le capitalisme et le militarisme ou la guerre. Et je pense que de ce point de vue-là, on peut dire que la vision de Martin Luther King pendant sa vie et malheureusement même aujourd'hui n'est pas du tout partagée par la plupart des Américains.
Effectivement, il avait une vision beaucoup plus globale. Que représente-t-il encore pour les Afro-Américains?
Mais pour les Afro-Américains, je pense que c'est toujours un héros. Mais faut dire la vérité que à l'école, par exemple, on n'enseigne pas le vrai histoire de Martin Luther King. Donc même pour les Noirs américains comme moi, l'image qu'on a de Martin Luther King ne correspond pas vraiment à sa politique. Donc, par exemple, à l'école, on n'enseigne pas le fait que Martin Luther King est allé deux fois en Afrique, premièrement au Ghana, en 1957, pour voir l'inauguration de Kwame Nkrumah, et aussi il est voyagé au Nigeria. Et c'était un homme qui n'avait pas une vision limitée aux droits civiques pour les Afro-Américains, mais qui avait en fait une vision beaucoup plus large, internationale. C'est quelqu'un qui a soutenu les mouvements indépendantistes en Afrique. Et je pense que cette image-là d'un homme, d'un militant radical, n'est pas très bien connue, même pour les Afro-Américains aux États-Unis.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est vrai que les attentes de la communauté afro-américaine étaient immenses au moment du début de la mandature de Barack Obama, et in fine, elles ont été déçues.
Je pense qu'il y en a qui sont déçus, bien sûr, mais je pense aussi que les frustrations des Noirs américains s'incarnent dans les mouvements comme Black Lives Matter, comme toutes les mobilisations qu'on a vues à Ferguson, et on peut comprendre ces mobilisations dans le contexte historique, bien sûr, des mouvements pour les droits civiques de Martin Luther King, mais des mouvements pour les droits civiques qui a commencé beaucoup avant Martin Luther King, Rosa Parks, d'autres militants des années 60 et des années 50. Donc c'est une lutte très très longue qui date des centaines d'années. Et je pense que de ce point de vue-là, oui, on peut constater qu'il y a une déception, bien sûr, chez non seulement des Noirs américains, mais chez tout le monde qui avait des attentes beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus optimistique par rapport à Barack Obama.
Oui, ce que l'on voit, c'est qu'avec Rosa Parks ou Martin Luther King, le flambeau est à chaque fois entre les mains de chaque individu. Merci infiniment à vous, Crystal Fleming, d'avoir répondu à nos questions ce soir dans Paris Direct.
Et oui, quel héritage pour la lutte pour les droits de Martin Luther King. C'était un entretien exclusif avec Crystal Fleming. Elle est professeure de sociologie, d'études africaines-américaines à l'université de Stony Brook à New York. Elle est aussi auteure de My Book Resurrecting Slavery, Racial Legacies and White Supremacy in France, sorti en 2017 de Temple University Press, and How to be Less Stupid About Race, on Racism, White Supremacy and the Racial Divide hardcover. Et elle a aussi publié d'autres articles très intéressants dans plusieurs autres magazines. Si cela vous intéresse, on pourra vous envoyer ses coordonnées, mais vraiment une personne à surveiller qui sera à l'antenne très prochainement. CUT 89,5 FM et
RFI, toute la diversité du monde.
But 100 years later, the Negro still is not free.
I have a dream today.
I tell you, this woman trying to get sanctified. I tell you, this woman is trying to get sanctified. I tell you, this woman is trying to get sanctified. I tell you, this woman is just
the devil. À 34 ans, il prononce un de ses discours les plus lus et cités de l'histoire des États-Unis. Pasteur engagé pour la défense des droits civiques, à 15 ans déjà, il gagne un concours d'éloquence avec une idée qu'il défendra toute sa vie, des droits civiques égaux pour les Noirs. Voici en archive le parcours de l'orateur Martin Luther King.
We'll get to the promised land.
let nobody turn you round, turn you round, turn you round. Don't let nobody turn you round. Keep on to freedom.
We come before thy presence this evening, thanking thee for the many blessings of life. We come recognizing our dependence on thee. We also come, O God, with an awareness, the fact that we have not always given our lives to that which...
Je suis contre la violence. Je suis optimiste pour l'avenir des Noirs de Birmingham. Nous gagnerons l'égalité raciale. No, I do not think the policemen have done a good job in seeking to apprehend the bombers. We are gravely concerned over the failure of both the city police and the FBI to come up with some clue to this bombing.
Let me live our lives.
This could be done.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
I accept the Nobel Prize for Peace.
J'accepte cet honneur avec la conviction que le mouvement pour les droits civiques, qui avance avec détermination, établira le règne de la justice et les règles de la liberté.
Et je continue à faire un rêve cet après-midi. Au gouvernement, nous verrons des hommes aimant la justice et dépourvus d'arrogance. Et ce sera un jour nouveau où tous les hommes vivront en frères. Ce ne sera pas le temps de l'homme blanc, ce ne sera pas le temps de l'homme noir, mais ce sera le temps de l'homme en tant qu'homme.
Assassiné un 4 avril 1968, 50 ans après, ces citations sont toujours d'actualité. Une injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout ailleurs, car nous sommes tous pris dans un tissu de relations mutuelles. Martin Luther King. Et chaque fois que des hommes, des femmes, redressent l'échine, ils peuvent aller où ils veulent, car personne ne peut monter sur votre dos tant que vous vous tenez tout droit. Martin Luther King. On est peut-être venu par des navires différents, mais aujourd'hui, on est tous sur le même bateau. Martin Luther King. Nous avons tendance à mesurer la réussite à l'importance de notre salaire ou à la grosseur de nos voitures, plutôt qu'au lien que nous cultivons avec les autres. Martin Luther King. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour peut le faire. Martin Luther King.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le poème.
Adra bella cosa, ding-e-da.
Nana,
ding-e-da.
Écoutez la planète chanter.
CIUT 89.5, Toronto.
Écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Et oui, du 14 au 15 avril, la spéciale Québec au cinéma Carlton. On vous a donné un aperçu de ce qui s'en vient, des fois des messages assez épicés. Mon Dieu. En partenariat avec Québec Cinéma, Ciné Franco vous apporte le meilleur des films, les plus récents sortis au Québec. Et oui. Découvrez la programmation complète sur le site de Ciné Franco en allant sur www.cinéfranco.com. Dans un instant, celle qui détient peut-être la clé du printemps à Toronto, au Canada, partout dans le monde, sera des nôtres. Marceline, elle est la fondatrice, directrice générale de Ciné Franco. Gagnez des places de cinéma. Ah, attention, les billets sont déjà partis. Nous avons reçu plusieurs appels. Vous devez répondre quand même avant le 10 avril au pepopourri@cut.fm. Qui sait?
Ma fille n'arrête pas de se battre. Mon
petit enfant.
Mon
père
qui fait sa petite affaire comme s'il
existait pas. Le 3 à 3, c'est à l'affiche. Oseriez-vous? Oseriez-vous?
Si je fais pas quelque chose, je vais exploser.
Un film de Nicolas Monette.
plus loin serait. Pas de déshabiller, je m'occupe de toi.
Avec Mélissa Desormeaux-Poulain, Martin Matt, Bénédicte Descaries, Geneviève Schmitt, Anne-Elisabeth Abossé. Ciné Franco vous donne rendez-vous à Spécial Québec au Carlton Cinéma le 14 et le 15 avril à ne pas rater.
C'est l'histoire d'une femme en deuil.
Et oui, c'est le Québec.
Saviez-vous, madame, monsieur, qu'en 2017, les recettes des films québécois ont grimpé à 12,4 millions de dollars, alors qu'elles étaient estimées à 3,4 millions de dollars l'année dernière, c'est-à-dire en 2016. Qu'est-ce qui fonctionne dans ce cinéma du Québec, une vraie fête printanière du film québécois, madame, monsieur, nous attend grâce à Ciné Franco et nous avons le plaisir d'accueillir pour quelques minutes, parce que moi j'ai rien préparé, c'est elle qui va mener la barque à bon port, je l'espère, celle qui est chevalière sera des nôtres. Est-ce qu'elle est là? Nous allons planer sur la demeure domicile de... Ah, je la vois. Bonjour Marcel, ça va?
Bonjour Éric Kader, oui, ça va très bien.
Oui, alors, nous avons traversé le Tennessee, le Memphis.
Oui.
Vous avez aimé?
J'ai adoré, j'adore le jazz, le blues. Je ne suis jamais allée à Memphis, mais j'aimerais bien.
Oui.
Mais c'est bravo, très très touchant et très d'actualité.
Vous savez, Maryse Pélard, elle est une auditrice de Madrid, en Espagne, a adoré l'émission.
Ah oui.
Et nous avons d'autres invités encore, d'autres personnalités, d'autres auditeurs, auditrices qui ont envoyé des messages vraiment, vraiment très touchants. Cela fait plaisir.
Oui.
Au moins, il y a une personne qui nous écoute quelque part.
Au moins une. Et avec moi, ça fait deux, quand même.
Oui. Alors, ça s'en vient, hein, la grande tournée du Québec.
Ben oui, ça s'en vient. Bon.
Alors, le trip à trois, c'est un film un peu osé.
Oui, c'est un peu osé, mais c'est drôle. Mmh. On voulait commencer par quelque chose de drôle le 14 avril à 14h, donc au cinéma, avec Martin Matt, qui est connu comme être un humoriste. Et c'est un film où les mots sont drôles, les comédiens sont justes. Et c'est un film un peu paradoxal, parce qu'il est à la fois, il a été réalisé par un homme, Nicolas Monette, écrit par un homme, Benoît Pelletier, Le sens de l'humour, produit par un homme, Guillaume L'Espérance, mais l'implication des femmes est très importante, et bien sûr, les collaboratrices ont... se sont penchés sur ce film pour qu'il soit juste et qu'il s'adresse bien à des femmes. Enfin là, une femme en particulier dont la routine l'étouffe un peu et elle s'aperçoit que le nœud de sa vie, c'est un nœud sexuel.
Oui. Vous savez, il y a des thèmes qu'on a le goût d'explorer ces temps-ci.
Oui,
le postpartum, la sexualité féminine.
Oui. Et les histoires d'amour aussi. Hein. Les faux tatouages qui est par Pascal Plante. Alors, Pascal Plante va être parmi nous pour nous présenter le film et en débattre. C'est un film qui a été nommé à Berlin pour l'Ours de Cristal, pour ça s'appelle Generation 14+.
Mmh.
C'est un film dont on dit que c'est une tendre et délicate histoire d'amour qui n'a aucun mal à emporter l'adhésion. Mais il faut vous dire que le fond du film, c'est sur rock punk. C'est un film dynamique où Pascal Plante, qui dit qu'il a toujours aimé les films romantiques, il y met sa sauce avec quelques traditions. romantique. Il a reçu ce film le prix du meilleur scénario au Vancouver Film Critics Circles, ainsi que 3 nominations. Donc c'est un film qui vient avec un pédigré très très intéressant, et Pascal Plante aussi sera extrêmement intéressant. Là c'est encore le samedi après-midi à 16h30.
Oui, au cinéma Carlton, au je vous rappelle madame, monsieur, c'est samedi prochain. Oui. Alors pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas très très habitués avec le langage du Québec, oui, je vais quand même essayer de les expliquer. Quand on dit le trip à Trois, madame, monsieur, ça n'a rien à faire avec un voyage à Trois. C'est un genre de concubinage, c'est des relations sexuelles. Parce qu'il faut dire bien que Estelle, elle a 34 ans, conjointe, mère de famille, sans histoire, qui s'enfonce dans une vie rangée, prévisible.
Voilà, voilà.
Mais tout d'un coup, il y a une série d'événements qui va se produire. Parce que vous savez, quand on a vécu 5 ans, 10 ans avec quelqu'un, la même personne, c'est la routine hein, qui rentre en jeu. Et dans un jour, on sort comme ça de sa boîte et puis on dit... Et si je commençais à flirter avec l'autre? Et si on avait une histoire, mais pas à deux, à trois?
À trois.
Peut-être que ça va faire monter l'adrénaline. Non, mais c'est ça le trip à trois, madame, monsieur, ça n'a rien à faire avec un voyage. C'est vraiment un voyage sexuel.
Oui, c'est ça.
Des échanges.
C'est une, c'est un itinéraire qui est tout à fait d'ailleurs plausible, hein, parce que je crois que c'est une façon naturelle un peu de se poser des questions. Mais il y a un autre film donc à la suite de ces expressions, hein, les rois mongols.
Oui, mais avant qu'on passe aux rois mongols, parce qu'on va aller dans passant d'étape en étape, hein, film en film. Alors, à constater que le nombre de femmes scénaristes spécialisées en comédie qui brillent actuellement à la télévision du Québec, moi, je n'en reviens pas.
Oui.
D'ailleurs, il faudrait leur confier davantage des rôles de consultantes au scénario. Alors, pour ce film, Trip à Trois, il y a une critique du journal La Presse que je trouve très intéressant.
Oui.
Il dit, le Trip à Trois se situe dans la moyenne des comédies du même genre produites au Québec, celle dont le but affirmé est d'attirer le plus grand public dans les salles. Ni meilleur, ni pire, on peut même prédire une carrière honorable à ce film, calibré pour plaire au plus grand nombre, parsemé parfois de gags efficaces. C'est bien.
Oui, c'est très bien. Et justement, ça met le doigt sur le fait que ici, à Toronto, on ne verra pas ce film.
Oui.
Donc, c'est une façon, le spécial Québec, qui est fait avec la tournée Québec Cinéma, de montrer ce genre de film, comme d'ailleurs les scènes fortuites de Guillaume Lambert, qui est également une comédie. Mais c'est une comédie plus modeste, qui a coûté 100 000 dollars, qui est faite avec la lumière naturelle, petite caméra, justement, Guillaume Lambert, et ça vient d'un réalisateur qui est parti voir le film et qui a dit que Guillaume Lambert a su démontrer qu'on peut faire un excellent film avec peu de budget et qu'il est un excellent modèle pour tous les cinéastes de la relève. Et ça, encore une fois, c'est à la fois le chemin de croix de tous nos cinéastes, qu'ils soient franco-ontariens ou québécois ou manitobains du Saskatchewan, etc. Il y a une véritable ceinture, en quelque sorte, hein, de budget pour réaliser un film. Et voilà, encore une fois, les scènes fortuites, cette petite comédie qui est vraiment charmante, ne sera pas vue si on ne met pas un petit peu le projecteur sur ces petits films quand même, mais ce sont des films qui sont vraiment, formidables.
Alors c'est prévu pour le dimanche 15 octobre à 14h, madame, monsieur.
Exactement.
Et c'est le titre « Les scènes fortuites ». D'ailleurs, si vous allez sur le site de Ciné Franco, vous allez avoir quand même l'aperçu de tous les films et fois des bandes annonces.
Oui.
Je vous rappelle que Guillaume Lambert m'intéresse parce que c'est le monsieur touche-à-tout qui se déguise, qui est scénariste. Rappeler qu'il était comédien et il a remporté à l'âge de 7 ans un concours. 7 ans, hein? 7
voilà.
ans!
Oui.
Un concours qui lui a permis de devenir caméraman amateur d'une émission de chasse et pêche.
Ah, bravo, moi, vous m'apprenez des choses, Rita. Oui, bravo, bravo.
Un souvenir immortalisé dans une entrevue d'une demi-heure sur la chaîne communautaire de Sorel.
Oula.
Un petit village, Sorel, qui a fait part. Vous savez, les petits villages, des fois, on s'en sort, hein, des grands artistes.
Oui, en effet.
Ça n'a rien à voir avec le territoire où on vit.
Non, c'est sûr.
Il suffit d'avoir un peu d'ambition.
Voilà.
Et voilà, une carrière derrière la caméra, madame, monsieur, qui transforme pour les besoins du film.
Justement, en parlant de jeunes acteurs, il y a le Henri Picard. Henri Picard... qui est le fils de Luc Picard. Et on l'a vu, Henri Picard, quand il, je crois, il avait peut-être 3 ans, dans ce très beau film de Luc Picard qui s'appelle L'Audition et qui a eu, je ne sais pas combien de prix, combien de nominations. Et je crois que ce film-là est sorti en 2005. Et on retrouve justement Henri Picard, maintenant en tant qu'adolescent, dans Les Rois Mongols. Alors, Les Rois Mongols, lui, il a obtenu l'Ours de Cristal à Berlin en 2018 pour la Generation K+, plus 3 nominations. Mais là où il va, ce film récolte des récompenses. Parce que c'est une façon tellement ravivée de revoir les événements de 70 au Québec, et en même temps ce niveau à la fois politique et plus individuel de familles destituées qui luttent justement pour leur survie et des enfants qui imitent ce que le gouvernement leur montre, en fait.
Alors, ça se passe dans un quartier à Montréal, quartier à Hochelaga. On va essayer d'avoir... Pouvez-vous essayer de trouver Henri Picard pour nous? Mais en attendant, on a reçu quelqu'un qui est avec nous.
Oui.
Le film Pour vivre ici.
Ouh là là.
Qui a été présenté, madame, monsieur, le 21 février dernier en ouverture des rendez-vous, grand rendez-vous de Québec Cinéma. Un film qui pose avant tout le problème du rapport, voilà un autre film très intéressant, du rapport entre les parents et les enfants et celui de la transmission.
Voilà,
que j'aime bien.
Le dilemme de la transmission.
Moi, j'ai eu un rapport vraiment extraordinaire avec ma grand-mère. Je dis toujours aux gens, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ce rapport de transmission que j'ai eu quand j'étais adolescent. Et vous savez, à 15 ans, on ne veut rien savoir de l'autorité et de ses parents, et encore moins d'une grand-mère.
Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai.
C'est un problème de la modernité. C'est un film qui est touchant. Nous avons Bernard Raymond avec nous.
C'est l'histoire d'une femme en deuil. Elle a perdu son mari. Elle est atterrée par le deuil. Et peu à peu dans le film, elle va revenir à la vie. Elle va retrouver le sens de la beauté. Et en fait, c'est un film qui passe de l'ombre à la lumière. Ça m'a permis de parler aussi d'autre chose, du fossé entre les générations, de ce qu'on tient à garder des gens qu'on aime, de ce qu'on tient à garder aussi de notre culture, du passé de nos gens. En fait, si j'ai fait le film, c'est que j'ai le sentiment d'une perte terrible, qui n'est pas juste la perte de nos proches, de nos parents, de nos grands-parents, des gens qui meurent, mais une perte aussi de ce qui faisait le Québec.
Et oui, il dit aussi dans une autre entrevue, je n'ai pas la nostalgie des familles de 15 enfants, vous savez, dans le vieux Québec de l'époque.
C'est vrai.
Céline Dion, par exemple, avait 14. Alors il dit, je n'ai pas la nostalgie des familles de 15 enfants et du pouvoir de monsieur le curé, mais j'ai la nostalgie d'un monde où les liens familiaux et les responsabilités sociales étaient plus serrés, où l'argent menait moins le monde, où le commerce n'avait pas tout envahi, on n'était pas devenu marchandise. Je trouve ça tellement fort.
C'est beau. En tout cas, nous allons avoir Bernard Raymond. Il va venir. Et j'avoue que j'ai une impatience folle parce que j'ai eu la chance de programmer certains de ses films pendant les 20 années de Ciné Franco, dont en particulier la neuvaine. Justement, son actrice fétiche, Élise Guibeault, se retrouve dans Pour vivre ici. Si vous me le permettez, je voudrais citer une phrase de Claude Deschênes, qui a une chronique et qui dit « Dans son incarnation, Élise Guibeault nous touche par la sollicitude de son regard, elle nous convainc de la résilience de son personnage par la seule détermination de ses pas dans la neige. Les images de Jean-Pierre Saint-Louis qui baigne dans une lumière franche d'hiver magnifient le tout, en parlant justement de son passage à Baie-Comeau.
Et il y a une autre critique qui dit « Les films de Bernard Raymond occupent une place à part dans la cinématographie québécoise.
Ah oui, ah oui.
À la frénésie ambiante, il oppose une zénitude et un parti pris pour la réflexion.
Absolument.
Avec « Pour vivre ici », le film que vous allez voir, madame, monsieur, cette fin de semaine, prochaine,
oui.
Le cinéaste creuse encore une fois ce sillon salutaire pour les uns, irritant pour les autres.
Oui.
Alors, ça, c'est un film à voir, madame, monsieur,
oui,
samedi 14.
Alors, c'est le 14 avril, oui. Samedi à 19h, oui. toujours au Carlton.
Alors, oui. C'est pas très loin, madame, monsieur, du métro collège. Et quand vous sortez du métro collège, vous marchez un peu vers l'est, sur la rue Collège à Carlton.
Oui.
Et là, vous allez voir
exactement.
Le cinéma à gauche.
Oui.
C'est d'ailleurs un petit cinéma. Moi, je me demande toujours comment est-ce qu'ils font pour vivre. Ça fait longtemps que ce cinéma existe.
Oui, oui.
Mais il y a des films quand même répertoires assez intéressants
exactement.
Qui ne se projettent pas ailleurs.
Exactement. Oui. Et je voudrais également parler d'un autre film qui est Bagages,
oui.
Qui a été créé, dont l'idée vient de
Mélissa
Lefebvre.
Oui.
Hein, et elle-même, c'est un prof d'art dramatique au secondaire. Et c'est Paul Tom, qui est lui-même thaïlandais, et qui a mis en scène, donc qui a réalisé ce film. Et c'est un film que je trouve magnifique, qui m'a bouleversée sur les témoignages croisés de jeunes adolescents nouvellement immigrés au Québec.
Alors, ça c'est très intéressant parce que ça tombe à la plein dans ce discours qu'on entend dans certains médias qui trouvent que ces gens viennent prendre notre place, qu'ils sont des assassins, des tueurs, des gens qui volent.
Oui.
Alors, il dit, je viens de Moldavie, je viens de l'Égypte, je
voilà,
viens du Brésil,
voilà.
je viens
oui,
de l'Iran,
oui.
et ça fait un an et demi que je suis au Québec.
Voilà.
Sur ces paroles s'amorce exceptionnellement ce documentaire Bagages, réalisé par Paul Tom, madame, monsieur, d'après une idée originale, comme vous l'avez dit, de Mélissa Lefebvre, enseignante en art dramatique. Je pense qu'elle a donné la voix à des sans-voix.
Oui, oui, absolument. Et en fait, donc, elle va être parmi nous le dimanche, le dimanche après-midi, à 16h15, toujours au Carlton.
Oui.
Et permettez-moi, ce que j'ai beaucoup aimé, il y a un critique qui a dit ce qu'on ressent pour ces jeunes qui doivent bûcher davantage pour s'adapter à leur nouvel environnement, c'est loin d'être de la pitié, mais plutôt de l'empathie, de l'amitié, du respect et de la fierté. Et c'est tellement vrai.
Alors, nous avons retrouvé, grâce à nos amis qui sont partout sur la planète, le réalisateur Luc Picard avec son film « Les rois mongols ».
Oui.
Et il va nous adresser la parole immédiatement.
Luc Picard, qu'est-ce qui vous a inspiré pour tourner le film « Les rois mongols » ?
Ben, c'est à la lecture du roman de Nicole Bélanger. Il y a beaucoup de choses, là, beaucoup de choses, mais le truc fondamental, c'est le thème, cette espèce de thème un peu du charmien de comment on fait en vieillissant pour rester proche de soi-même, pour rester pur, pour rester fidèle à ses idées, ses principes, ses premières impressions. Comment on fait pour survivre à l'âge adulte, t'sais? Comment on fait pour rester proche de soi. Ça, c'est l'affaire fondamentale qui m'a touché là-dedans.
Et oui, c'est intéressant, madame, monsieur. Alors, ça se passe dans le quartier Hochelaga. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est dans un quartier pas très, très huppé, assez pauvre, dans le quartier Maisonneuve. En octobre 1970, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était le grand conflit, le Front de libération du Québec, le FLQ, qui fait entendre ses revendications et prises d'otages politiques. C'est bon de replonger un peu dans l'histoire. Et ce film, pour les jeunes, pour les nouveaux immigrants, c'est un important de comprendre. Alors, il y avait même une loi sur les mesures de guerre
pour
neutraliser à coups d'opérations militaires des centaines de citoyens innocents, impuissantes. La population nargue les soldats à grands coups de « Salut, mon roi mongol !»
Oui, oui, c'était en état de siège. Hein. C'est une époque très, très critique. Mais ce qui est magnifique dans les rois mongols, c'est que c'est une époque qui est vue... À hauteur d'enfant. Et justement, ce contraste, est-ce que on va pouvoir garder cette pureté, cette passion, c'est vraiment au cœur, mais c'est bouleversant en même temps.
Je pense que ce film démontre une grande sensibilité qui est puissant aussi, qui est fort. D'ailleurs, il y a une critique qui dit dans cette quête d'émancipation et de liberté, l'œuvre à la fois drôle et touchante, servie par une belle reconstitution d'époque et de jeunes comédiens doués, traduit bien l'esprit du temps et le caractère de l'adolescence.
Absolument.
Je trouve ça formidable.
C'est magnifique. Je dois vous dire que ce film, nous l'avons montré à notre programme jeunesse devant des adultes et en même temps des ados.
Oui.
Ils en sont sortis transis d'émotion. Et je dois vous dire que c'était magnifique de les voir. Et c'est pour ça qu'on a dit, par demande populaire, on voudrait le ramener.
Alors c'est dimanche le 15 octobre à 18h.
Exact.
Et le réalisateur sera là ?
Non, hélas, on n'aura pas lu.
Très bien. J'aimerais tellement faire brosser un tableau sur la puissance du cinéma du Québec et tous ses rapports avec l'establishment, mais aussi Hollywood et l'Afrique et tout ça. Mais on n'a pas le temps, malheureusement. Je remercie beaucoup Jean-Baptiste Placa de RFI, Alain Pilot de RFI, ainsi que le professeur Crystal Fleming, une grande historienne, vous avez entendu, et Jean-François Cadet, Alain Poca, Joe Farmer, DJ Devera, merci d'avoir été là, Jean-Jo Benoît, qui vient de nous appeler et très intéressé d'aller voir un film, Marie, Mélanie, Anthony, ainsi que d'autres personnes qui continuent à appeler, le Journal Express de Toronto, et je vous donne rendez-vous, madame, monsieur, à ne pas rater, c'est la fête du cinéma québécois, organisée par Ciné Franco. Voilà encore une fois une bonne façon d'aller rencontrer Marceline et aussi tous les bénévoles qui seront là samedi et dimanche. Ne faites rien, réservez ces deux jours, s'il vous plaît, c'est un ordre que je vous donne, il faut y aller. Je vous remercie infiniment, Marceline, d'avoir été là, et merci de faire des heureux, encore une fois.
Merci infiniment à vous.
Je vous souhaite un bon printemps.
Oui, on va essayer.
Bonne semaine.
Bonne semaine aussi, merci.
Au revoir, à la prochaine.
Merci.
Parlons.
CIUT 89.5 FM, the station that brings